Ménager les territoires. Comment transformer nos manières de voir et de faire notre cadre de vie face aux enjeux contemporains? Les CAUE, Conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, partagent leurs réflexions, leurs actions et leurs expérimentations pour continuer à l'améliorer à toutes les échelles et dans tous les contextes, du grand paysage au logement. Une série de 5 podcasts réalisés à l'occasion des universités d'été des CAUE à Strasbourg du 5 au 7 juillet 2023. Épisode 3. Réinventer les zones d'activité et les friches. Chloé Malier-Marche, conseillère en aménagement au CAUE de Haute-Savoie.
Alors, une zone d'activité économique, c'est un secteur dédié à l'installation, à l'implantation d'activités économiques sur le territoire. Et on appelle ça des zones parce que généralement, elles sont identifiées dans les documents d'urbanisme comme des zones préférentielles pour l'implantation d'activités économiques. Alors, en Haute-Savoie, on rencontre une problématique qui est récurrente, qui n'est pas spécifique seulement aux zones d'activité de Haute-Savoie, c'est qu'on a un foncier qui est très rare et donc très cher. Et donc, sur les zones d'activité, on peut avoir des difficultés d'implantation des entreprises ou d'extension des entreprises existantes ou d'implantation de petits artisans qui ont aussi besoin de locaux qui peuvent être situés en zone d'activité et qui n'ont pas forcément les moyens d'accéder à ce foncier-là. Et on a aussi parallèlement une captation de ce foncier d'activité par des grandes enseignes commerciales pour y développer des projets de centres commerciaux parce que c'est une valorisation du foncier qui est supérieure à une valorisation pour de l'activité. On est face à des grands groupes qui en ont les moyens et du coup on a cette problématique d'accès au foncier d'activité. C'est typique de la Haute-Savoie parce qu'on est un département extrêmement dynamique d'un point de vue démographique. Pendant un certain nombre d'années, on a accueilli 12 000 habitants supplémentaires chaque année. Là, on a rabaissé le seuil, on est à peu près à 8 000 habitants de plus. Et donc, on a une activité en face qui se développe sur ce même type de rythme avec toujours cette recherche de foncier pour se développer et s'implanter. Aujourd'hui, on a la loi climat et résilience avec l'objectif de zéro artificialisation nette des sols qui va s'imposer à tous et dans tous les domaines. Et c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, on a admis cette densification, cette optimisation pour l'habitat et on ne l'a pas mise en œuvre ni explorée pour les zones d'activité. Et avec cet objectif de zéro artificialisation nette des sols, on va devoir peut-être continuer à se développer, mais en étant encore moins consommateur, en reconstruisant la ville sur la ville. Et il va falloir l'appliquer aussi aux zones d'activité. C'est la question qu'on souhaite se poser dans le cadre de Mixité 3, où l'objectif là de l'optimisation foncière, c'est à travers des projets de requalification de zones, parce qu'on est parfois aussi sur des zones qui sont un petit peu en perte, pas forcément en perte de dynamisme, mais qui sont parfois obsolètes dans leurs aménagements, qui permettent pas des accès par des mobilités douces. L'idée, c'est d'avoir un projet de requalification de la zone qui va optimiser le foncier pour créer des mètres carrés d'activités supplémentaires. Aujourd'hui, on a beaucoup de zones d'activité qui sont fonctionnelles, qui fonctionnent pour les activités qui sont en place, avec des grandes voiries qui sont adaptées pour des circulations de poids lourds. Mais on a aussi des salariés qui vivent toute leur journée de travail sur ces zones-là, donc requalifier une zone d'activité, c'est apporter une qualité de vie aussi et pas que des fonctions. Alors, c'est arriver à raccrocher ces zones. Ne plus parler de zones, mais peut-être parler de quartiers productifs, voir comment on va les raccrocher aux espaces urbains. Ça va être à travers notamment la question des mobilités, permettre des mobilités plus douces, ce qui est pas forcément évident dans une zone d'activité où on va devoir faire se côtoyer parfois des poids lourds avec des piétons ou des cyclistes. Donc il y a vraiment un fonctionnement de la zone qui a repensé au niveau aussi des circulations. Et la requalification de la zone, c'est penser aussi, on va densifier pour créer du mètre carré d'activité supplémentaire. Ça va être aussi un accueil probablement d'employés supplémentaires, mais c'est quel type de service, quelle vie on va proposer aussi sur cette zone d'activité, quelles aménités finalement on va amener. Et dans cette requalification et cette optimisation, on va essayer aussi de mutualiser un certain nombre de fonctions, notamment les fonctions de parking qu'on voit aujourd'hui. Chaque entreprise, sur le principe des boîtes à chaussures, a son petit parking, peut-être ses zones de stockage aussi, et puis son petit bout d'espace vert, parce qu'il fallait qu'il y ait 2-3 quelques mètres carrés imposés d'espace vert, mais qui n'ont pas de fonction. Peut-être l'idée, c'est de mutualiser un certain nombre d'espaces pour qualifier tous les espaces, s'il y a des espaces verts qu'ils aient une fonction, peut-être récréative, peut-être de déplacement, mais vraiment de penser la zone dans son ensemble pour favoriser à la fois cette optimisation foncière et à la fois améliorer sa qualité de vie. L'idée, c'est de se mettre en condition réelle, comme si on se disait demain, on fait ce projet-là, mais il n'y a pas d'obligation de faire. Parce que, en fait, on met tout l'écosystème de la zone d'activité en réflexion. Il y a des entreprises qui sont présentes sur les sites. Aujourd'hui, bon, si on leur demande, vous avez besoin de quelque chose, peut-être qu'elles n'ont besoin de rien. Et là, on va leur demander de se mettre en démarche de projet, de se dire, est-ce que vous seriez prêt à mutualiser vos parkings avec une autre entreprise? Donc, il faut les emmener dans cette réflexion-là. Donc, on se dit bien qu'on essaye, on se questionne sans obligation de faire à la fin. Mais néanmoins, on se met en condition réelle avec tous les acteurs dont on aurait besoin si demain, on voulait faire le projet. Et ensuite, on a lancé des concours d'idées auprès d'agences d'urbanisme, de développement économique, les invitant à nous proposer un concept de requalification et d'optimisation foncière de la zone. Et l'objectif du projet Mixité, c'est d'obtenir pour chacune de deux zones des concepts d'optimisation foncière, et dans une deuxième étape, les projets lauréats sont invités à travailler sur une faisabilité un petit peu plus poussée pour identifier tous les leviers d'action qui vont nous permettre d'aboutir à ce concept. Et l'objectif étant quand même d'arriver à trouver une certaine... de faire en sorte que les concepts, ou en tout cas que les outils qui vont être développés à l'issue de ce travail-là, puissent être réplicables et puissent donner des clés de lecture et d'action à d'autres collectivités qui auraient envie de se pencher sur cette question-là. On a par exemple une équipe qui a travaillé sur un système de trame, en définissant une trame de peut-être 10 mètres par 10 mètres, et de se dire que sur cette trame-là, on allait reconfigurer un peu les espaces dévolus au public. Peut-être cette même trame servirait à étendre les bâtiments, que ce soit au sol ou en hauteur. Et à chaque fois, le nombre de petits carreaux qu'on va mobiliser va dépendre de l'activité qu'on va vouloir implanter, si on parle de bâtiments. Donc là, c'est une sorte de concept assez objectif, mais qui a plu aux élus pour ce côté un petit peu objectif et très méthodique. C'est plutôt un cheminement méthodologique qui nous amène à questionner certains aspects. Et chaque collectivité l'invite aussi à se questionner sur le positionnement qu'elle veut adopter. Et on est en train de travailler en ce moment sur une boîte à outils. Et les outils à mobiliser, ils vont dépendre aussi de la volonté de la collectivité, de son positionnement par rapport à ce projet-là.
Lucie Vitiello, architecte conseillère au CAUE des Pyrénées-Atlantiques.
On parlait de la commune de Sauveterre qui est située dans le département des Pyrénées-Atlantiques entre Pau et Bayonne, donc dans les terres. C'est une commune de 1380 habitants qui est une commune qui a un bassin de vie en fait, qui est une centralité qui regroupe des services pour les communes alentours. C'est une commune qui est petite ville de demain aujourd'hui. Et en fait, dans cette commune, il y a un ancien quartier industriel qui rassemblait en fait des entrepôts d'une conserverie et qui faisait travailler 400 personnes jusqu'à que la conserverie ferme. Et en fait, aujourd'hui, on a un vestige industriel qui est seulement de 2 hangars, les derniers qui ont été construits en dehors de l'îlot principal de construction des hangars. Les autres hangars avaient été détruits. Et à la place avait été mise en place une opération de construction avec des maisons pavillonnaires en périphérie de l'îlot, ce qui a dégagé un cœur d'îlot qui jusque-là n'était pas aménagé. Et en fait, par l'intermédiaire d'une démarche participative qui s'appelle Phoenix, qui a été pilotée par le département 64, est ressorti en fait l'importance de ce quartier, l'attachement des habitants à ce hangar. Et le fait que, en fait, on était vraiment finalement en cœur de bourg, accolé à la première, au centre bourg médiéval de cette petite ville. Et les habitants se sont saisis de ce projet, ont eu envie d'aménager en fait ce cœur d'îlot vert et en même temps de réfléchir sur les hangars. Mais il y a aussi un tissu associatif très important dans cette commune qui a perduré et qui a permis de faire de cette démarche participative Phoenix une vraie réussite, qui a entraîné ensuite deux projets. Les élus s'en sont saisis et se sont lancés avec l'accompagnement du CAUE 64 dans une démarche de concertation plus poussée après Phoenix. Donc l'idée c'était la démarche participative qui a été pilotée par le département. L'idée c'était d'être dans la continuité bien sûr de ce qui était ressorti pendant Phoenix, avec un diagnostic préalable partagé et puis des idées de comment établir un plan d'action à court, moyen et long terme. Et donc ce qui est ressorti, c'est qu'il fallait pouvoir garder une grande polyvalence, une multifonctionnalité, avec en même temps un programme culturel, festif, sportif, et des activités qui pouvaient être quotidiennes, par exemple avec une épicerie locale, mais donc des professionnels qui étaient aussi intéressés, mais aussi des activités qui pouvaient être plus ponctuelles, des événements en particulier culturels. Et donc le CAU a accompagné jusqu'à faire un premier estimatif pour donner une idée aux élus de ce que pouvait coûter la première préfaisabilité, la première idée de spatialité qui commençait à se dessiner. Et en fait ça se chiffrait vite en millions, parce qu'on a plus de, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'on a 1800 mètres carrés. C'est assez conséquent. Et donc finalement, ce qui est venu à l'idée, c'était de faire de l'urbanisme transitoire, donc de commencer à utiliser le lieu, à le faire vivre, à le mettre en lien avec les espaces extérieurs, parce qu'il y a des quais qui sont très intéressants autour de ce bâtiment. L'idée, c'était de pouvoir aussi d'ouvrir le bâtiment sur l'espace public, qu'il ne soit pas du tout un objet posé sans connexion avec les espaces alentours. Et donc des premiers événements ont eu lieu, mais en fait ça permet déjà d'utiliser dès aujourd'hui ce bâtiment et puis de tester en fait des configurations, des organisations spatiales, etc. pour affiner en fait le programme. L'idée c'est on est sur un projet à long terme, parce qu'il faut quand même des financements assez conséquents, mais voilà, on peut déjà utiliser le site et puis continuer finalement aussi la concertation in situ. Donc c'est ça qui se passe aujourd'hui, et puis là petit à petit les élus entrevoient un peu mieux le projet en fait en utilisant ce bâtiment. Et ça va être dans un plutôt à court terme l'idée là d'aller sur un projet un peu plus permanent. Aujourd'hui les élus ne feraient plus sans les habitants en fait dans ce village là. Donc la concertation, la participation, au début ça peut faire peur en fait. On a peur que ce soit les intérêts individuels qui priment sur les intérêts collectifs. Il y a une vraie, aussi une habitude l'équipe municipale a été élue, celle qui fait les projets, qui s'investit, etc. Mais en fait, pour avoir un projet, le plus cohérent possible, c'est tellement mieux s'il est partagé. Et on sait que pour réfléchir sur les espaces publics, notre cadre de vie, etc., il faut croiser les pratiques, croiser les approches et les différents sujets, que c'est quelque chose de particulièrement complexe, et que c'est pour ça qu'il faut aussi tous être informés sur ces sujets-là pour pouvoir prendre des bonnes décisions.
Sabine Guittel, directrice du CAUE de l'Eure.
On travaille dans le département de l'Eure, au CAUE, sur plusieurs sujets, sur l'application de la transition. Et dans l'application de la transition, se pose la question de la reconversion, de la réinvention, de la transformation des espaces qui ont été abandonnés, comme les friches industrielles ou les friches d'équipement ou les friches même agricoles ou naturelles. Selon la géographie du département, elle se trouve soit dans les centres-bourgs, dans les secteurs où le marché n'est pas très dynamique, mais elles peuvent se trouver aussi à juste en périphérie de ville ou dans les vallées qui ont été un petit peu désertées par les projets de développement ces 40 dernières années. C'est important de travailler là-dessus parce qu'aujourd'hui, on est dans une recherche, on cherche à aménager les villages et les villes, mais plutôt les villages pour les CAUE, dans la sobriété foncière, c'est-à-dire en consommant le moins de foncier possible agricole ou naturel, c'est-à-dire en ne s'étalant plus, en transformant la ville sur la ville, ou le village sur le village, et en récupérant les trous qui ont été laissés au fil de l'urbanisation depuis l'après-guerre. Là aussi, c'est vraiment à chaque fois des programmes très... Enfin, c'est des projets très ajustés à là où on est, donc au lieu qu'on investigue, parce que on peut prévoir des projets transitoires, on peut prévoir des projets pérennes d'habitat, de commerce, d'équipement, puis on peut ne rien faire. Et ça m'intéresse beaucoup parce que ne rien faire, c'est laisser le temps de réfléchir, et puis c'est laisser aussi, on a vu ça dans l'heure, c'est laisser le vivant, la végétation et la faune reconquérir ses friches et du coup apporter des espaces de respiration dans la ville. Et voir ce que ça donne comme interaction avec l'existant, avec la ville existante, et imaginer la transformation de ces friches-là dans cette démarche-là, c'est-à-dire d'une démarche de renaturation et d'offrir des espaces de respiration dans la ville. Donc à Brionne, c'est une petite ville de 4300 habitants sur la vallée de la Risle, dans l'heure, et les élus, il y a quelques années, ils nous ont demandé de les accompagner pour savoir comment réinvestir 3 hectares de friches industrielles en plein cœur de leur centre-bourg. C'est une commune qui s'est désindustrialisée et qui aujourd'hui n'est pas dans une dynamique d'attractivité débordante. Et au début, on a cherché, c'était il y a 5 ans déjà, au début on s'est dit mais il faut trouver une occupation. On était occupés par ça. Et puis finalement, en réfléchissant avec les élus et en faisant venir des ateliers, en organisant des ateliers avec des étudiants paysagistes, là en 2022, on s'est rendu compte que la meilleure manière, enfin la façon qui était la plus juste aujourd'hui de regarder ces friches, c'était justement de les regarder dans leur richesse écologique, puisque la végétation a investi l'espace et les bâtiments, et qu'il y a une richesse écologique. Et que cette richesse écologique, on pouvait l'offrir aux habitants et aux élus et à tous ceux et aux visiteurs en juste conduisant le vivant. Cet atelier, il s'appelle Conduire le vivant. Et donc en conduisant ce vivant et la dynamique végétale qui est en train de se développer sur cette friche, eh bien on offre un espace tout à fait singulier à la commune. Et on est dans une démarche innovante, puisqu'on est dans, on fait avec ce qu'on a sous la main pour donner une attractivité basée sur la qualité de l'environnement. Les élus, ils ont été scotchés, parce que quand ils ont fait la visite, du coup, les étudiants, ils ont d'abord analysé le site, ensuite ils ont pris leur sécateur, leur râteau, ils ont fait des propositions d'aménagement qu'ils ont mises en chantier, et ensuite ils ont invité les élus à découvrir les lieux, et du coup ça a été complètement une redécouverte de la friche, parce que c'était un espace que les élus ne voulaient plus voir, c'était un peu c'était un espace qui avait une mauvaise image, et là de le réouvrir et de conduire ce vivant en montrant toute sa dynamique et toute sa variété, ça a donné envie aux élus d'offrir cet espace à leurs habitants et d'en faire un parc tel qu'il est. Donc c'est un parc renaturé, juste, où il y a eu quelques actions qui ont permis de relancer une dynamique végétale. Et l'image, c'est en relançant cette dynamique végétale, on relance aussi une dynamique sociale. Aménager en ménageant les espaces tels qu'ils sont et en faisant à partir de ce qu'on a sous la main, ça c'est reproductible. Après, c'est complètement propre à Brionne parce qu'il faut que les conditions soient là. Il ne s'agit pas de plaquer cette histoire-là dans d'autres endroits. Donc c'est là l'intérêt de l'accompagnement des CAUE, c'est de à chaque fois s'ajuster en fonction du lieu, des élus, des habitants qui sont là pour avoir une réponse qui soit la plus juste possible. Et là, c'était, en tout cas aujourd'hui, à ce stade, c'est la réponse la plus juste pour servir l'attractivité de ce centre-bourg. On est dans un secteur qui est pas marqué par la croissance, donc on trouve des outils qui correspondent à un nouveau paradigme qui est comment on aménage sans croissance. Et ça, c'est aussi répondre à la demande sociale. C'est pas parce que on est dans des endroits où les marchés immobiliers sont à tonne qu'on ne fait rien, mais comment l'environnement devient une aménité et comment ça permet d'améliorer le cadre de vie des habitants et d'en faire un lieu où, de faire de ces lieux-là des lieux où ils sont fiers d'habiter. C'est ça le social.
Ménager les territoires est une série de podcasts imaginée par les CAUE, contributeurs aux universités d'été de juillet 2023. Conception et rédaction Sylvia Dubost, réalisation Stéphane Bolz.